Seigneur Jésus, je viens dans ta présence pour te louer, t'honorer, t'adorer. Tu me donnes ta paix, tu me conduis dans la vérité, tu me donnes la consolation. Par ta paix, tu me donnes ta paix, tu me conduis dans la vérité, tu me donnes la consolation par ta paix. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. T'adorer, tu me donnes ta paix, tu me conduis dans la vérité, tu me donnes la consolation par ta paix. Tu me donnes ta paix, tu me conduis dans la vérité, tu me donnes la consolation. Par ta paix. Amen. Bonsoir à tous, vous allez bien ce soir?
Oui.
Bien moi aussi. Non, je crois que c'est normal, hein. C'est l'époque où on a des chauds et des froids, on oublie d'enlever la clim dans la voiture, et voilà le résultat. Bon, mais voilà, comme dirait Bill, c'est formidable parce que voilà... Le numéro 18, nous avons chanté, ah, c'est mon préféré. Quelle chance, dis donc, c'est merveilleux. Numéro 18. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur Internet aussi. Ah ben ça tombe bien, mets de l'amour dans tout ce que tu fais. C'est bien. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Réjouis-toi et sois fidèle. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Et tu seras comblé. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Joyeux et souriant, c'est la vie avec Dieu. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Joyeux et souriant à chaque instant. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Réjouis-toi et sois fidèle. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais, et tu seras comblé. Amen. Ils veulent plus arrêter les musiciens. Nous nous levons et nous prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'avoir inspiré aux musiciens de chanter ce chant ce soir qui va bien avec le message que tu m'as inspiré. Merci Seigneur de bien vouloir bénir tous ceux qui vont l'entendre, non seulement ici, mais partout avec l'Internet. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 En enfin dernier, c'est le numéro 80, Maranatha.
Lève les yeux vers les montagnes, les
yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de Dieu.
Le secours me vient de Dieu.
Qui a fait la terre et les cieux?
Qui a fait la terre et les cieux?
Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offrons-nous avec toi.
Je suis dans la joie quand on me dit.
Je suis dans la joie quand on me dit.
Allons à la maison du Seigneur.
Allons à la maison du Seigneur.
Car nos peines sont finies.
Car nos peines sont finies.
Au grand jour de l'Éternel.
Au grand jour de l'Éternel.
Maranatha, viens Seigneur, viens.
Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offrons-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offrons-nous avec toi.
Merci les musiciens, merci beaucoup. On a réussi à chanter malgré les... Bien, ce soir, nous allons encore étudier un texte que j'avais déjà enseigné il y a quelque temps, mais je veux revenir dessus parce que j'ai encore des choses à dire dans l'évangile de Thomas. Pour ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a un évangile de Thomas, qui prennent le train en marche, je voudrais vous dire que l'apôtre Paul en parle dans une lettre, dans sa lettre aux Corinthiens. Il cite un texte de l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas a été écrit 55 avant Jésus-Christ. Il était interdit par l'Église catholique naissante en 397 au concile de Carthage parce que c'était l'évangile que les gnostiques préféraient. Mais c'est pas parce que les gnostiques préféraient cet évangile-là qu'il est faux. Et moi, j'aime bien l'étudier et comme je suis pas sectaire, eh bien, j'aime bien lire cet évangile de Thomas et puis d'autres choses aussi, Enoch et voilà. Et que Dieu vous bénisse et vous allez voir si je prêche quelque chose de faux, eh bien, dites-le-moi. Vous êtes là pour ça aussi, pas seulement pour écouter, mais pour me reprendre avec amour, avec beaucoup d'amour, s'il vous plaît. Mais reprenez-moi plutôt que de critiquer. Alors, c'est le logion numéro 47 de l'évangile de Thomas. Jésus a dit, il n'est pas possible qu'un homme monte deux chevaux, qu'il bande deux arcs, car il n'est pas possible qu'un serviteur serve deux maîtres, sinon il honorera l'un et il outragera l'autre. Jamais homme ne boit du vin vieux et ne désire aussitôt boire du vin nouveau, et on ne verse pas du vin nouveau dans des vieilles outres, de peur qu'elles n'éclatent, et on ne verse pas du vin vieux dans une outre neuve, de peur qu'elles ne le gâtent. On ne coupe pas une vieille pièce à un vêtement neuf, car cela le déchirerait. Vous voyez, ça rappelle beaucoup de choses qu'on connaît déjà dans les évangiles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir dans nos cœurs. Et surtout, on cherche à comprendre comment on peut vivre mieux notre vie chrétienne. Beaucoup de personnes, malheureusement, montent sur deux chevaux en même temps. Et ils tirent avec deux arcs. Et tout ça, ça crée l'angoisse. L'anxiété, ça indique que d'une manière ou d'une autre, vous montez deux chevaux. Comment pouvez-vous être à l'aise? C'est pas possible. C'est pas possible, à moins d'être un artiste de cirque, peut-être. Mais avec un cheval, vous pouvez vous déplacer. Avec un cheval, vous allez quelque part. Mais avec deux chevaux, le déplacement, c'est plus difficile, voire impossible. Surtout si vous montez sur la selle des deux chevaux en même temps, je vois vraiment pas comment. Enfin, vous n'arriverez en tout cas nulle part, ça. Et ça arrive beaucoup dans les milieux chrétiens. Et savez-vous pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont tenté l'impossible. Ils ont entendu parler de la foi, que tout est possible à celui qui croit, et ils ont tenté l'impossible, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas selon la mesure de leur foi. On va voir un peu ça. Comment fonctionne votre être intérieur? Si vous savez comment fonctionne votre être intérieur, alors vous allez comprendre ce que Jésus vous dit ici. Parce que ce qu'il vous dit ici, il ne dit pas la même chose à moi, parce que ma mesure de foi n'est pas la même que la vôtre. Elle est peut-être inférieure, ou supérieure, ou égale. Mais n'est pas la même, c'est ma foi. Le juste vivra par sa foi. Et votre être intérieur, ce qu'il désire le plus, vraiment, c'est d'être libre comme un homme pauvre. Seul un homme pauvre est libre, parce qu'il ne porte pas de fardeau, il n'y a rien. Enfin, quand je parle d'homme pauvre, je parle de pauvre selon Dieu, je parle toujours selon l'analogie de la foi. Je ne parle pas des pauvres de ce monde vers qui Jésus a dit qu'il fallait que nous allions pour en prendre soin. Un vrai pauvre, selon Dieu, c'est pas quelqu'un, ça peut être un milliardaire. Un vrai pauvre, selon Dieu, c'est une personne qui n'a qu'une source et qui a conscience qu'il n'a qu'une source et que c'est sa source, c'est Dieu. Il compte sur Dieu pour tout dans sa vie, pour tout. Il ne compte pas sur les façons humaines du moment, sur les magouilles, les machins, les façons de faire de ce monde. Un pauvre, qui ne l'est pas selon Dieu, par contre, c'est une personne qui peut être milliardaire aussi, mais qui ne compte pas sur Dieu, mais sur ses propres capacités, sur sa chance, sur les autres, sur la sécu, ou sur les gens qui sortent de l'église pendant qu'il fait la manche. Vous voyez, ça va de là-haut jusqu'en bas. C'est pas une question de quantité de possession, c'est une question de mentalité. Alors là, je vous dis, votre être intérieur, ce qu'il désire, c'est d'être un pauvre selon Dieu. Votre vie, votre être intérieur ne cherche pas la pauvreté matérielle, c'est pas ça dont je parle. Mais elle cherche à être pauvre selon, votre être intérieur cherche à être pauvre selon Dieu. Jésus nous a dit que la vérité nous rendait libres. Libres de quoi? Eh bien, libres justement de tous les fardeaux que le monde met sur nos épaules, que le diable veut que nous portions en nous disant que c'est normal. C'est la norme, c'est comme ça. Tout le monde fait ça, c'est comme ça. On peut pas, n'est-ce pas, faire autrement. En affaires, c'est obligé de mentir, c'est obligé de voler un peu, c'est obligé. Voilà, ça c'est le monde. Mais le diable veut nous accabler de fardeaux, nous ennuyer, nous tourmenter dans notre conscience ensuite. C'est pénible à trimballer. Alors pour en être débarrassé, il faut échanger les fardeaux du diable contre d'autres fardeaux, les choses de ce monde que le monde nous impose comme des normalités, il faut les échanger contre les fardeaux, contre le fardeau de Jésus. Jésus a dit, sans tousser, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, mon fardeau est léger. » Vous vous rappelez de ça? Un seul fardeau, mon fardeau est léger. Celui de Jésus, le fardeau de Jésus, c'est-à-dire sa loi. Écoutez Jean, l'apôtre de l'amour. Jean, il parle des commandements de Jésus, du fardeau que Jésus veut pour vous. Il en parle dans son épître, la première, 1 Jean au chapitre 5, versets 1 à 5. Je vous lis. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors on peut dire, ah, voilà, c'est formidable. N'importe quelle ordure qui croit que Jésus-Christ est né de Dieu, il est de Dieu lui-même. Non. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Voilà, on va développer ça. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est de ça dont nous allons parler ce soir. La vérité, c'est d'aimer. Qui? En premier lieu, ceux qui sont nés de Dieu. C'est ce que Paul enseigne, Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, c'est-à-dire maintenant quand on est vivant, parce qu'après c'est fini, maintenant quand nous sommes vivants, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, virgule, et surtout envers les frères en la foi. Les sœurs aussi, c'est permis. Il dit bien envers tous. On ne doit pas dire, oh ben non, celui-là il n'est pas chrétien, donc je ne l'aime pas. C'est-à-dire que je ne vais pas l'aider, je ne vais pas pourvoir son besoin, non. Il dit bien envers tout le monde, et il ajoute, mais surtout envers les frères dans la foi. Alors, ben tiens, on peut faire des privilèges, on va privilégier certaines personnes. C'est bizarre ça, hein, on n'avait pas vu ça comme ça. Ben, vous allez voir, on va le voir autrement. C'est sur ce point-là que réside le fardeau. C'est un petit peu comme une aiguille sur laquelle on se trouve, et on est un peu en équilibre. Ça n'est pas difficile de faire le bien, mes frères et sœurs, mais il est difficile de recevoir le bien. Et quand on fait le bien, il y a toujours quelqu'un qui le reçoit. Et quand vous faites quelque chose de bien à quelqu'un, ça peut déclencher en lui un malaise. Vous sauvez par exemple quelqu'un de l'alcoolisme. Il est dans l'alcoolisme, il voit les petites bêtes, il ne veut pas s'asseoir sur le canapé parce qu'il trouve que c'est trop bien pour lui, ça c'est par terre, enfin il est vraiment mal dans sa peau, c'est une horreur, vous l'aidez, vous le secourez, vous le sauvez, vous le prenez chez vous, vous l'aidez. Eh bien, ça va déclencher, s'il n'est pas spirituel, un malaise chez lui. Au bout de quelque temps, il va se sentir redevable, et il va commencer à vous trouver tous les défauts pour pouvoir se dégager de vous. Et il deviendra un fardeau. Combien de fois on a vu ça? Faites du bien. C'est facile, mais c'est plus difficile de recevoir. Il faut comprendre ça. Et il faut aimer ceux qui ont de la difficulté à recevoir aussi. Nous savons très bien que celui qui ne sait pas donner, en général, il ne sait pas recevoir. Celui qui ne sait pas recevoir, en général, il ne sait pas donner, on a vu aussi. Oui, tu m'as tout pris. Tu m'as... Bon. Et celui qui va recevoir, il va blesser celui qui donne. Il y a un petit proverbe dans le monde qui dit, tu tends la main à un chien pour lui donner à manger, il va te la mordre. Et cependant, Jésus enseigne que nous avons à pratiquer le bien envers tous. Même envers ceux qui, nous le savons, vont nous blesser. Et puis Paul rajoute, et surtout, les frères. Et pourquoi il dit ça? Parce que les frères, ce sont ceux qui ont le plus tendance à blesser celui qui donne. Les blessures qu'on reçoit de la part de ceux qu'on aime sont plus douloureuses que celles que les autres nous font. Plus vous aimez quelqu'un, plus qu'il va vous faire de mal, si j'ose dire, de blessance, ça va prendre des proportions terribles. Si c'est un inconnu dans la rue, bon, pff, à la limite, vous dites, bon. Pff. Mais une personne qui professe la foi, et puis qui vous blesse, alors ça nous semble beaucoup plus douloureux que la blessure que peut nous infliger n'importe quelle personne dans ce monde. On peut toujours se dire, eux, ils ne savent pas ce qu'ils font, là, 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 là. Vous voyez, la vérité, elle est décelable en nous-mêmes. Elle n'est pas décelable dans les autres, elle est décelable en nous-mêmes. Un, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et, Paul rajoute, parce que c'est pas suffisant, croire que Jésus-Christ est, que Jésus est le Christ, ça suffit pas pour être de Dieu. Il rajoute, et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire, je le dis en bon français aujourd'hui, quiconque aime le Père qui l'a fait naître de nouveau, si moi j'aime le Père qui m'a fait naître, eh bien j'aime aussi ceux qui l'a fait naître. Mais ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas toujours très fins, très bien élevés et très agréables à vivre. C'est vrai. Donc on peut tous nous faire des reproches. Tout le monde peut un jour ou l'autre vous faire des reproches. Oui, tu m'aimes pas, ou comme ci, comme ça. Oui, bon. Moi, la vérité, elle est en moi, je sais. Personne ne peut déceler ça. Il peut arriver que je me trompe. Il peut arriver que je fasse une erreur. Mais moi, je sais si j'aime ou si j'aime pas. Et vous? C'est là la question. Arrêtez de penser aux autres. Vous, moi, dites moi, je. Est-ce que j'ai? Et parmi les nés de nouveau, qui font donc plus bobo quand ils nous blessent que les autres, il y a encore en plus parmi les nés de nouveau, il y a les faux frères, ceux qui ont tellement fait souffrir Paul, dont il parle si souvent, les faux frères, qui tirent tout ce qu'ils peuvent tirer tant qu'ils peuvent tirer, puis qu'ensuite se tirent, et qui laissent un fardeau, des peines, des problèmes. Bref, c'est le prix à payer. C'est un fardeau, Jésus a dit, c'est un fardeau. La vérité est un fardeau à vivre, pas à connaître. La vérité, c'est pas un fardeau à connaître. Connaître la vérité intellectuellement, c'est pas un fardeau. Un faux frère peut la connaître. Une personne dans le monde peut connaître la vérité. Il suffit simplement qu'elle écoute, et puis elle peut connaître. Et puis elle peut apprécier, disant, oui, c'est vrai, il y a une certaine logique, c'est parfait, c'est merveilleux. Qui va dire, n'est-ce pas, que 1 Corinthiens 13, c'est pas la vérité? Hein? L'amour, ceci, l'amour, cela, c'est merveilleux, c'est la vérité, on le sait. Ce n'est pas un fardeau que de connaître la vérité. C'est même plutôt flatteur de connaître la vérité, parce que quand on connaît la vérité, on peut briller dans les salons, hein, on peut en parler, passer pour quelqu'un d'érudit. Hein, c'est formidable, les gens qui connaissent des choses, n'est-ce pas, ils disent des choses, c'est merveilleux. Mais vivre la vérité, ça, c'est un fardeau. Parce qu'elle s'applique selon des lois, la vérité. C'est-à-dire selon des commandements. C'est pas n'importe comment. Alors c'est vrai que Jésus dit, mon commandement, mes commandements ne sont pas pénibles. Mais il ajoute, parce que c'est pas pénible, parce que ça pourrait l'être. Mais c'est pas pénible parce que quoi? Pour qui les lois de Jésus ne sont-elles pas pénibles? Pour ceux qui sont nés de nouveau, car ceux qui sont nés de nouveau triomphent du monde. Et comment ceux qui sont nés de nouveau triomphent-ils du monde? Par leur foi. Ça, c'est ce qu'on vient de lire. Est-ce que ça signifie qu'on gagne à tous les coups? Non. Mais oui. J'explique. Quand on vous blesse, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit un faux frère, une fausse sœur, ça existe aussi ça, et, ou une personne du monde, votre foi, elle vous aide à surmonter cette peine, ce chagrin. Et si c'est vous qui avez fait de la peine, parce que vous avez mal aimé, votre foi vous aide à relever la tête, votre foi vous aide à réparer la chose, à vous humilier, à demander pardon. Voilà, bon. La foi, c'est ce qui va faire agir la vérité qui est en vous. La vérité que vous avez reçue. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus lui-même en personne. Et Jésus en vous ne peut agir que par votre foi. Son esprit, son énergie, sa lumière ne peut agir que par votre foi. Celui qui veut monter deux chevaux, il aura beaucoup de peine. Je vous ai dit, dans le monde, il y a tout et son contraire. Sauf là. La vérité, elle rend libre et la foi rend vivant. C'est seulement là que vous aimez selon Dieu. Si vous n'aimez, beaucoup de gens pensent qu'ils aiment, mais en fait, ils n'aiment pas, ils ont du sentiment, c'est différent. Maintenant, il y a une chose que je dois absolument dire, parce que si je ne le dis pas, ça va vous blesser. La vérité est en vous, alors le doute s'infiltre. Ça, c'est obligatoire. Mais le doute n'est pas que négatif. Il vous donne plus de puissance pour calculer. Excusez-moi, la toux, c'est terrible. Souvenez-vous, si un homme veut construire une tour, qu'est-ce que Jésus dit? Il faut d'abord qu'il s'assoie et puis qu'il calcule pour savoir s'il va pouvoir aller jusqu'au bout, etc., etc. La foi n'exclut donc pas les calculs. Je me rappelle, quelqu'un m'avait reproché d'être un calculateur une fois. Heureusement, sinon on serait sous les ponts. Comme lui d'ailleurs. La foi n'exclut pas les calculs. Les calculs ne sont pas interdits. Les calculs, c'est pas charnel. Souvenez-vous, la dîme, par exemple, ça se calcule. On donne pas comme on veut. C'est le dixième de notre revenu. Il faut calculer. Et puis ensuite, il y a l'offrande en plus. Ça se calcule. La Bible dit, mettez de côté selon ce que vous avez sur votre cœur. C'est-à-dire, réfléchissez. Si vous donnez tout, vous n'aurez plus rien. Si vous ne donnez pas assez, vous êtes un pingre. Donc, il faut calculer. Et il y a des calculs qui ont été faits. Et le temps qu'on consacre à la prière aussi, ça se calcule. On ne peut pas dire, oh ben aujourd'hui, je n'ai pas prié. Bon. Le temps qu'on passe à manger aussi, on le calcule. C'est à midi. Chez nous, c'est à midi. Mais c'est bien d'être discipliné. Le temps qu'on consacre à manger, ça se calcule. Moi, je dis, ça se calcule. On a des cycles. Ce qu'on mange aussi, ça se calcule. Ah, il y en a qui exagèrent, qui pèsent tout, milligrammes et tout, qui exagèrent. Ce qu'on boit aussi, ça se calcule. Un verre, hein, deux verres, trois verres, attention. Il faut prendre le train, hein. Donc, il faut calculer. La vérité habite notre corps, et notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc sans calcul, on risque d'abîmer le temple du Saint-Esprit. On calcule notre temps de sommeil aussi. Et tout ça, ça s'appelle la discipline. La discipline. Ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ça aussi, on calcule. On va dire n'importe quoi à n'importe qui. À qui on va le dire, à qui on va pas le dire. Ça se calcule. Parce qu'on peut blesser suivant ce qu'on dit. Moi, si je vais raconter mes péchés à un jeune frère dans la foi, ça va le déstabiliser, ça va lui foutre les jetons. Il va dire, ah bon, au bout de 30 ans de conversion, on n'est encore que là, c'est pas possible, quelle horreur. Ça va le décourager. C'est vrai ou pas vrai? Donc, je vais calculer, je vais dire, bon, je vais plutôt aller taper sur le gros frère là-bas qui est bien établi dans la foi, il va comprendre. Ça se calcule. Je me confierai au plus fort, afin de ne pas blesser. C'est de l'amour aussi. Le doute donne une puissance de réflexion. Réflexion qui fait défaut à ceux qui ont la foi du charbonnier. Ils croient tout, croient n'importe quoi. Des fois, ça me fait un peu peur, l'Afrique, parce que je me dis, ils sont croyants, oui, mais le dernier qui passe, il a raison. On va leur raconter après une histoire de... Ils vont croire aussi. C'est ça qui me fait un peu peur avec eux. C'est pourquoi je vais pas seulement les évangéliser, mais les enseigner, pour les enraciner dans les choses de la foi, de la parole de Dieu. Et le doute vous permet aussi d'avoir une meilleure protection. Et si on ne peut pas vous tromper facilement, si vous êtes prudent, si vous n'êtes pas ouvert comme ça, n'importe qui, n'importe comment, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Cette sorte de doute-là, ça ne crée pas l'anxiété, ça développe votre intelligence spirituelle. La vérité qui habite en vous n'interdit pas la prudence. Soyez prudents comme des serpents. Le terme est choisi exprès, Jésus choisit exprès le serpent parce qu'il sait que ça va choquer notre imagination. Pour en revenir à la loi de la relativité, l'homme libre n'est pas habité par le contraire de la vérité. La vérité le rend libre, mais il n'est pas habité en même temps par le contraire de la vérité. La vérité habite en vous, le mensonge n'habite pas en vous. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Mais ce qu'il y a de l'autre côté de la balance de la vérité en vous, c'est un serviteur de la vérité qui s'appelle le doute. Le doute. L'homme de foi se sert du doute pour bouger. Si vous n'avez pas de doute, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. D'accord ? C'est pas plus compliqué que ça. Sans le doute, aucune décision n'est possible. Si vous n'avez pas de doute, quelle décision vous allez prendre ? Quand on prend une décision, c'est qu'on a au moins deux choix, c'est-à-dire un doute. Le doute n'est pas que négatif. Alors par la foi, vous prenez les bonnes décisions avec la réflexion, avec la partie qui prend la majorité, c'est-à-dire la vérité. C'est-à-dire, est-ce que ce que je vais faire, ça va faire du bien aux autres ? Est-ce que ça va glorifier Dieu ? Est-ce que ça va me donner une satisfaction personnelle ? Si les trois choses rentrent là-dedans, alors la vérité est là-dedans. Parce que Dieu est là-dedans. Alors, une fois que vous avez pris votre décision, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours la minorité. Quand il y a une majorité, ça veut dire qu'il y a une minorité. La minorité, elle est toujours là. Elle sera toujours tapie dans l'ombre. Et au premier petit problème qui va surgir, elle va vous dire, tu n'avais pas pris la bonne décision. Ou sûrement, tu n'avais pas pris la bonne décision. Mais cette minorité-là, elle est maîtrisée. C'est pas elle qui gouverne. C'est la minorité. La majorité, c'est la foi qui est établie sur la vérité de la parole de Dieu, sur la vérité, l'authenticité de votre amour pour Dieu, pour les gens, pour vous-même. Pilate, il disait, mais c'est quoi la vérité ? Et Jésus ne lui a pas répondu. Mais toute la Bible nous dit ce que c'est que la vérité. C'est le pouvoir d'aimer les gens, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, d'aimer le travail bien fait, aimer. Et on a chanté, mets de l'amour dans tout ce que tu fais, réjouis-toi et sois fidèle. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et tu seras comblé. Tout à l'heure quand j'étais dans mon bureau, je ne me rappelais plus, alors j'ai écrit là, mets de l'amour dans tout ce que tu fais. J'ai écrit, ne faiblis pas et prends courage, parce que je ne me rappelais plus les paroles. Mais c'est vrai, ne faiblis pas. Le doute essaie de nous affaiblir, mais ne faiblissons pas. Le fardeau consiste aussi à ne pas laisser le doute prendre la majorité, à ne pas se laisser affaiblir par le doute. Parce qu'alors, c'est là que vient l'inquiétude. Un inquiet, c'est un malade. C'est un malade qui est difficilement trompable, c'est vrai. Il a donc un profit, il ne peut pas être trompé, c'est génial. Mais il a une grosse perte, c'est-à-dire que le profit lui coûte très cher. Il perd des tas d'occasions, il perd des tas de choses. Il reste indécis, il reste inquiet tout le temps. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont habités par la vérité, mais qui ne savent pas encore gérer le doute et son contraire, qui est la foi. Il n'y a rien en face de la vérité. La vérité, il n'y a rien en face. Il n'y a pas de contraire à la vérité dans un enfant de Dieu. Le mensonge n'habite pas avec un enfant de Dieu. C'est la vérité qui habite. Mais la vérité ne bouge que par la foi que vous avez. La foi, elle a son contraire, le doute qui est nécessaire, sans quoi la foi ne peut pas fonctionner sur la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Si on comprend ça, mais alors on est beaucoup plus libre dans notre façon d'agir. On ne dit pas, oh mais j'ai des doutes, oh mais quelle horreur, je suis charnel alors. Non, soyez fort parce que vous l'êtes. Soyez violent, ce sont les violents qui s'emparent des choses du royaume de Dieu. Soyez agressif. Gagnez avant que ça soit trop tard. Vous n'êtes pas seul, si ce n'est pas vous qui gagnez, c'est d'autres qui vont gagner. C'est une course, l'apôtre Paul dit, c'est une course. Il n'y a qu'un seul qui gagne, il faut que ça soit vous. Alors ne montez pas deux chevaux, ne tirez pas avec deux arcs. La compétition, ce n'est pas contraire à l'amour. Les hommes et les femmes qui courent dans un stade ne se haïssent pas. Mais ils veulent tous gagner, mais ils ne se haïssent pas. Par vos bonnes actions, et par ce que vous allez gagner par vos bonnes actions, vous allez prouver que vous aimez. Démontrez que vous avez un désir, celui de remporter le prix. Le prix de l'excellence du savoir-vivre, le prix de l'excellence du savoir-aimer, le prix de l'excellence du savoir-donner, le prix de l'excellence du savoir-pardonner. Celui qui connaît la vérité sans la mettre en pratique n'a pas la foi, mais le doute le conduit à la mesquinerie, à la lâcheté. Alors, montez un cheval, tirez avec un arc, sinon vous allez outrager les deux chevaux, c'est-à-dire vous allez outrager Jésus et le diable et tout le monde. Et votre vie, ça sera vraiment un échec. La foi en Dieu, elle est toujours honorée. Toujours honorée. Et il tournera même vos ennemis en votre faveur. Et même vos erreurs en réussite. C'est ça que ça signifie. Il ne vous oubliera jamais si vous vous servez de chaque instant et de chaque occasion pour faire du bien à tous et en premier à vos frères. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Qui par ses inquiétudes ajoute une coudée à la durée de sa vie, qui par ses inquiétudes peut rendre blanc ou noir un seul de ses cheveux, ne t'inquiète pas, car Jésus est là, il garde tes pas le long du chemin, il te conduira dans l'éternité. Sois comme le lys des champs dont le roi Salomon n'a jamais eu la gloire. Sois comme l'oiseau du ciel attendant son repas que donne notre Dieu. Ne t'inquiète pas, car Jésus est là, il garde tes pas le long du chemin, il te conduira dans l'éternité. Et sois dans la paix, la joie et dans la certitude que ton Dieu t'a sauvé. Crie dans le monde entier que les chaînes du péché sont à jamais brisées. Ne t'inquiète pas, car Jésus est là. Il garde tes pas le long du chemin. Il te conduira dans l'éternité de paix.
Merci Seigneur de nous garder dans ta paix ce soir et que nous puissions la conserver en nous-mêmes et la propager autour de nous. Merci pour cette collecte qui va être faite. Veuille bénir les frères et sœurs qui donnent. Qu'ils puissent être bénis dans leur salaire, dans leurs revenus, au nom de Jésus. Amen.